L'avantage de la technologie proposée par Silfyro, c'est effectivement qu'on a une motorisation électrique à zéro émission de CO2 qui est innovante dans le sens où elle permet également d'augmenter les performances de l'avion. Et en ça, on va pouvoir aussi imaginer des applications non seulement dans le civil, mais aussi dans le spatial.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, prenons de la hauteur dans ce nouveau podcast Jeune Pousse vers un horizon plus durable pour l'aviation. Le secteur est largement pointé du doigt pour ses émissions de gaz à effet de serre, au point que s'est développé le fameux mouvement Flixcam, la honte de prendre l'avion. Et ce n'est pas tant qu'il représente 2,6% des émissions mondiales de CO2 qui inquiète, mais plutôt les perspectives d'augmentation significative du trafic dans les années à venir. Les acteurs du secteur n'ont pourtant pas attendu les défis actuels pour évoluer vers des modèles plus vertueux écologiquement, mais il s'agit aujourd'hui d'opérer une véritable bascule pour tenir les engagements du zéro émission à l'horizon 2050. Les initiatives se multiplient donc actuellement, comme Silfyro, une start-up deep tech qui développe les premiers moteurs à réaction d'avions 100% électriques. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui ses deux cofondateurs, Damien Engemann et Tom Bernat, mais aussi Lisa Belkishan, experte d'Assaut System, avec qui Silfyro collabore via le 3D Experience Lab. Accrochez vos ceintures, décollage immédiat. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
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 Merci tous les trois d'avoir accepté de venir parler décarbonation de l'aviation. Damien, Tom, je le disais en introduction, de nombreuses solutions technologiques sont explorées actuellement pour relever ce défi. Vous, c'est un moteur à réaction d'avion 100% électrique. C'est quoi exactement un moteur d'avion 100% électrique ?
Habituellement, les avions sont propulsés par des moteurs thermiques, en fait, dans lesquels on vient brûler un carburant. Cela sert à chauffer l'air pour le dilater et l'accélérer, et ainsi une poussée est générée. Dans le cadre d'un moteur électrique, la propulsion est faite différemment. Dans un moteur électrique conventionnel, on fait passer un courant dans une bobine qui va en fait générer un champ magnétique et faire tourner un arbre auquel on peut relier par exemple une hélice, et l'hélice va déplacer de l'air vers l'arrière pour créer une poussée. Dans notre cas, nous développons un nouveau type de moteur électrique, électrothermique en fait. Il s'agit de réacteurs dans lesquels nous ne brûlons pas de carburant, mais nous utilisons des arcs électriques pour chauffer l'air. Donc ce sont des arcs électriques de très haute puissance qui vont chauffer l'air à plusieurs milliers de degrés Celsius et en faire un plasma. Et ainsi, cela permet toujours de générer une poussée de la même manière qu'un réacteur conventionnel, mais sans émettre de CO2.
En termes d'avantages techniques, qu'est-ce que ça peut permettre par rapport à d'autres sources d'énergie comme l'hydrogène ou l'hybride ?
Il y a différents avantages et inconvénients à chaque solution. L'hybride a pour avantage d'être relativement facilement déployable. C'est une solution qui utilise toujours un carburant conventionnel, donc elle émet toujours du CO2 en vol, mais moins. On peut par exemple se servir de la propulsion électrique lors du décollage et de l'atterrissage pour réduire les nuisances sonores. Et on peut aussi se permettre d'utiliser le moteur thermique à un régime optimal pour en fait optimiser son rendement, réduire la consommation globale de l'avion. Il y a d'autres solutions qui sont explorées, les biocarburants, donc des carburants de synthèse qui sont fabriqués à partir de résidus alimentaires, à partir d'hydrogène, d'électricité. Ces biocarburants ont le grand avantage de pouvoir être utilisés directement dans des moteurs déjà en service sans nécessité de changement. Mais l'inconvénient est que ces biocarburants polluent toujours un petit peu et surtout ils sont chers. On n'arrive pas à en produire en quantité suffisamment importante aujourd'hui. Ensuite, il y a l'hydrogène en tant que carburant ou en tant que vecteur d'énergie pour de l'hydrogène électrique. Donc soit on brûle de l'hydrogène directement, ça permet de générer de la chaleur et une poussée et ça n'émet que de la vapeur d'eau. Soit on s'en sert dans une pile à combustible, c'est un dispositif qui va en fait transformer l'hydrogène en électricité et l'hydrogène va se recombiner avec l'oxygène de l'air pour former là aussi de l'eau. Donc l'avantage de l'électrique par rapport à ces autres technologies, c'est qu'en général l'électrique a des performances plus élevées et un coût inférieur, mais le grand inconvénient, c'est qu'il nous faut une source d'électricité, et pour l'instant, les batteries ou l'hydrogène ont une capacité inférieure au carburant.
En termes de capacité, justement, on parle du problème de l'électricité sur son autonomie qui est quand même relativement réduite, qui pose un peu des problèmes sur des longs vols. Vous, dans votre cas, c'est quoi l'autonomie et quelles sont les perspectives ?
Aujourd'hui, nous pensons pouvoir monter jusqu'à 1500 km d'autonomie environ avec notre technologie à l'aide de batteries. Si l'on utilise de l'hydrogène et des piles à combustible, nous pensons pouvoir monter à jusqu'à 4000 km de portée environ. Donc, il faut savoir que la portée de vol de 0 à 1500 km représente déjà un tiers des émissions du secteur et une grande partie donc, des vols en fait, qui sont faits à travers le monde. Donc, ce n'est pas parce qu'on est limité en portée que pour autant il n'y a pas de marché, bien au contraire. on peut déjà avoir un fort impact sur le marché et sur les émissions de CO2 dès aujourd'hui. Ensuite, les vols jusqu'à 4000 km représentent les deux tiers des émissions du secteur. Puis les vols jusqu'à, en fait, au-delà de 4000 km représentent l'intégralité des émissions. Mais les vols donc au-delà de 4000 km sont ce qu'on appelle généralement les longs courriers, sont minoritaires par rapport aux vols sur des distances plus courtes.
Quels sont les principaux défis technologiques auxquels vous êtes confrontés pour développer votre technologie ?
Alors, le principal défaut technologique et défi en même temps, on vient d'en parler, c'est la densité énergétique des solutions de stockage d'électricité. Sinon, si on se focalise un peu plus sur la propulsion et sur ce qu'on fait nous, l'une des grosses difficultés se retrouve au niveau des contraintes thermiques. Un des avantages des plasmas par rapport à une combustion, c'est qu'on peut chauffer l'écoulement d'air à un niveau de température plus élevé, ce qui a pour effet d'augmenter le rendement thermique, mais en même temps d'augmenter les difficultés de gestion des matériaux qui vont être au contact de ces hautes températures. Et en dehors de ça, la partie plasma en elle-même est une physique qui est très complexe à simuler, très complexe à comprendre et à optimiser, simplement parce que tout un tas d'éléments rentrent en jeu, tout un tas de réactions chimiques se passent, tout un tas de processus physiques se passent. La physique des plasmas, en fait, on est à la croisée des mondes, c'est-à-dire que la chimie rentre en jeu, la thermodynamique, la mécanique des fluides et l'électromagnétisme. Et du coup, il y a tout un tas de phénomènes multiphysiques entre ces différents grands groupes de physique qui se produisent.
Parlons un petit peu de votre aventure entrepreneuriale. Comment est né le projet et où en êtes-vous actuellement ?
Comment est né le projet ? Eh bien, à l'époque, c'était fin 2018. Je suivais des études d'ingénieur. J'étudiais à l'UTBM et en parallèle, je pratiquais aussi un loisir, l'aéromodélisme, au sein d'un aéroclub. Qu'est-ce que c'est l'aéromodélisme ? Brièvement, c'est un loisir qui consiste à concevoir, fabriquer, piloter toutes sortes d'engins volants à échelle réduite à l'aide d'une radiocommande. Et donc, dans le cadre de ce loisir, je m'étais demandé comment faire pour aller plus vite, parce qu'en fait, à l'époque, j'avais un petit avion en tout électrique qui pouvait atteindre environ 300-400 km/h, mais c'était encore assez loin en dessous des performances des autres avions qui étaient équipés de réacteurs. Donc, à ce moment-là, je me demandais comment faire pour aller plus vite tout en restant en électrique, et donc comment faire pour électrifier les réacteurs. Pour cela, il faut trouver un moyen de chauffer l'air en remplacement de la combustion habituelle de carburant. Et donc, j'ai découvert la technologie qui consiste à utiliser un arc électrique pour chauffer l'air, par hasard, en m'intéressant à d'autres sujets. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que ça ne pourrait pas être en fait la solution à mon problème ? Et j'ai fait par la suite quelques recherches pour m'assurer que c'était viable. Et ensuite, j'ai décidé de rejoindre le PEPITETENA. Le PEPITETENA, c'est en fait un incubateur de l'éducation nationale, au sein duquel on m'a conseillé de participer à différents concours de création d'entreprise pour rencontrer d'autres personnes, d'autres entrepreneurs et former une équipe, parce que mener un tel projet tout seul est très difficile, pour ne pas dire impossible. Et donc, fin 2019, j'ai rencontré Tom Bernat à la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg, qui organisait ce qu'on appelle un hackathon, donc un concours de création d'entreprise le temps d'un week-end. Tous les deux, nous avons travaillé ensemble le temps de ce week-end, et puis le courant passait bien, nous avons continué à travailler ensemble par la suite, et puis nous avons décidé de nous associer. Nous avons essayé d'abord de lancer le projet en Alsace, donc là où on s'était rencontrés, et malheureusement, c'était en pleine crise du Covid-19, donc ça n'a pas pu se faire. Et à la sortie de cette crise, fin 2020, nous avons candidaté à un appel à projet de l'incubateur Bordeaux Techno-Est pour le rejoindre. Nous avons été pris, nous avons été sélectionnés par un jury avec l'écosystème local. Il y avait donc Dassault Aviation, Ariane Group, Rolsel, etc. Donc suite à cette sélection, nous sommes arrivés en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux en janvier 2021. Nous avons créé la société et nous avons ensuite cherché des fonds pour commencer à travailler sur la mise au point de notre preuve de concept en mars 2022. Et cette preuve de concept est toujours en cours de réalisation. Nous sommes actuellement en train de la terminer.
J'imagine que pour développer une technologie comme la vôtre, vous avez eu besoin de partenaires. Quels sont ces partenaires et comment ils sont intervenus ?
Alors, en termes de partenaires, on pourrait les classifier différemment. Il y a des partenaires qui agissent plutôt sur la partie financement et d'autres qui nous accompagnent et qui nous conseillent à plusieurs niveaux. D'un point de vue financement, le premier partenaire qu'on a eu, c'est la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous a octroyé une subvention pour notre développement. On est également financé par la BPI, par Airbus Développement à travers un prêt pour l'innovation, l'Union Européenne et également d'autres sources de financement. Et sinon, en termes d'accompagnement, alors évidemment Dassault Systèmes, via leur accélérateur, le 3D Experience Lab, qui nous met en fait à disposition des licences pour leurs logiciels sur diverses applications. Ça peut être des logiciels pour une partie commerciale, pour la partie gestion de projet, et des logiciels plutôt experts métiers, dont se sert beaucoup de la partie modélisation 3D, donc des outils de CATIA sur la plateforme 3D Experience. Également des outils de simulation. Ça peut être des simulations pour la mécanique des fluides, de mécanique des structures et d'autres éléments. Nous sommes également accompagnés par Bordeaux Techno-Est sur le développement de notre startup. Il s'agit d'un incubateur. Par l'accélérateur Sustainable Aerolab, qui est en fait une initiative de la ville de Hambourg, qui a pour but, comme dit le nom du programme, de développer l'aviation décarbonée également par le programme Blast sur Paris, qui est en consortium avec notamment l'ONERA, Starburst et d'autres structures.
Justement, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Lisa Belkishan, experte du sujet de la décarbonation de l'aviation Dassault Systèmes. Déjà, une première question, Lisa, quel est votre rôle chez Dassault ?
Alors, mon rôle chez Dassault Systèmes, c'est d'accompagner et de comprendre les intervenants, les acteurs du secteur aéronautique en termes de décarbonisation du secteur, dans l'objectif de les accompagner et d'aligner également nos solutions logicielles pour répondre aux justes besoins des nouveaux challenges qui sont en train d'apparaître dans ce contexte de décarbonisation.
Pourquoi avoir choisi d'accompagner Sylph Aero ? Qu'est-ce qui vous intéressait chez eux ?
On a choisi d'accompagner Sylph Aero parce que c'est une start-up qui non seulement révolutionne la motorisation électrique, mais aussi parce que ça permet d'avoir une application à plusieurs niveaux, à la fois dans le temps, et on sait que les étapes pour la décarbonisation est beaucoup une histoire de transition à plusieurs étapes vers les objectifs 2050 de décarbonisation des émissions de CO2, et également pour la diversité des applications qui sont réalisables. Donc, j'explique un petit peu cette idée. On sait que l'industrie aéronautique n'est pas nouvelle dans le contexte de décarbonisation. Ça fait plusieurs décennies qu'on voit des efforts en termes d'aérodynamisme, en termes de choix des matériaux, en termes d'architecture moteur, qui permettent aujourd'hui d'avoir des avions qui émettent moitié moins de CO2 par rapport à il y a 30 ans. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que le trafic civil ne va cesser d'augmenter et toute l'industrie aéronautique a fixé des objectifs communs de réduire les émissions sur plusieurs étapes et en particulier avec un objectif de suppression des émissions de CO2 d'ici 2050. Donc on voit effectivement, comme on a pu le rappeler tout à l'heure, plusieurs technologies apparaître. L'avantage de la technologie proposée par Sylph Aero, c'est effectivement qu'on a une motorisation électrique à zéro émission de CO2 qui est innovante dans le sens où elle permet également d'augmenter les performances de l'avion et en ça on va pouvoir aussi imaginer des applications non seulement dans le civil, mais aussi dans le spatial ou dans d'autres types d'applications de propulsion. Et donc pour nous, un Dassault Systèmes, c'est effectivement le type de technologie qui va être d'intérêt fort pour nous, étant donné que notre but est évidemment de faire collaborer les acteurs du monde aéronautique dans un cadre d'innovation. Et le fait d'avoir une technologie un petit peu elle-même une plateforme technologique va nous permettre d'avoir une base très intéressante pour travailler à accompagner cette innovation.
Vous nous parlez de plusieurs étapes pour atteindre ce fameux zéro émission d'ici 2050, sans rentrer dans tous les détails, parce que je suppose qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. En bref, quelles sont ces étapes-là et comment on va y parvenir ?
Effectivement, dans ce qu'on voit apparaître chez nos clients, on parle beaucoup d'électrification des avions dans un premier temps, avant de parler de changement de carburant. Sans les détailler, on en a parlé au départ, donc on a les kérosènes synthétiques, on a l'hydrogène. Encore une fois, ici, l'avantage de cette motorisation électrique à base de plasma fait qu'on peut considérer l'application très court terme, donc d'ici 2030, pour faire du rétrofit, c'est-à-dire remplacer des motorisations sans changer toute la flotte existante des avions. Et c'est effectivement une étape clé dans la transition dont on a besoin de réaliser pour arriver à cet objectif très ambitieux de suppression des émissions 2050. Donc pour reformuler, en fait, on a besoin d'avoir des étapes, des briques technologiques qui vont permettre de déployer des solutions à la fois sur le court terme, sur le moyen terme et le long terme. Et ce que propose Sylph Aero est intéressant parce qu'on y voit apparaître des opportunités d'application, donc à la fois sur plusieurs segments, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi dans l'échelle du temps, on va pouvoir faire maturer la technologie sur les différents types d'ambitions qu'on veut accompagner de manière globale dans l'industrie aéronautique entre maintenant et 2050.
Damien, peut-être une réaction ?
Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Lisa, il est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup parlé de l'avantage en termes de performance de notre propulsion. En fait, aujourd'hui, les moteurs électriques conventionnels permettent d'atteindre au maximum 556 km/h, c'est le record du monde de vitesse homologuée. Un réacteur conventionnel qui propulse un avion de ligne permet de voler à 800-900 km/h, donc il y a une grande différence. Et ensuite, les réacteurs, pour d'autres applications, peuvent même monter à plusieurs milliers de km/h. Donc nous, notre objectif avec Sylph Aero, c'est vraiment en fait, d'électrifier les réacteurs plutôt que de les remplacer, tout simplement pour conserver leur performance, pour pouvoir avoir des moteurs qui permettent d'aller aussi vite et qui sont tout aussi puissants que les moteurs actuels. Parce que dans l'état actuel de la technique, les moteurs électriques conventionnels ne permettent pas d'électrifier des gros avions ou des avions qui doivent aller vite.
Justement, parlons un petit peu de votre projet. On a vu que vous étiez sur la preuve du concept actuellement. Quelles sont les prochaines étapes et quelles sont vos ambitions à terme pour répondre en cohérence avec ce que disait Lisa ?
Les prochaines étapes sont de finaliser l'assemblage et les essais de notre preuve de concept. Donc, il s'agit d'une petite turbomachine en laboratoire de 90 kW de puissance environ, avec une température moyenne de 3000 degrés Celsius. Elle vise juste à démontrer la faisabilité à ce stade. Elle ne vise pas encore à démontrer les performances. Donc, une fois qu'elle aura été finalisée, nous comptons en fait lever des fonds pour cette fois-ci mettre au point un nouveau moteur qui, lui, devra démontrer les performances que nous visons. Et ce moteur-là servira aussi à faire des essais en vol. Pas seulement des essais au sol, il sera aussi utilisé sans doute à bord d'un drone pour faire des essais en vol et valider différentes innovations, valider le concept, collecter des données, etc. Ensuite, il faudra que l'on mette au point des nouveaux moteurs pour donc s'attaquer au marché de l'aviation civile. Nous pensons commencer dans un premier temps par des moteurs pour avions d'affaires et avions régionaux. Pourquoi ? Parce que ce sont des avions un peu plus petits que des avions de ligne qui sont plus simples à cibler dans un premier temps. Et c'est néanmoins un marché qui est assez important. Donc il y a des avions de par exemple quelques dizaines de passagers, une vingtaine par exemple. Nous pensons pouvoir mettre un moteur sur ce marché d'ici à 2035. Et cette date est assez importante parce que si nous voulons renouveler toute la flotte d'avions d'ici à 2050, il faut que l'on se donne le temps pour que les avions existants arrivent en fin de vie et qu'ensuite ils soient remplacés. Et à long terme, nous comptons donc cibler les avions de ligne Airbus, Boeing, Comac, etc.
C'est malheureusement la fin de ce podcast. Peut-être un petit mot de conclusion, Lisa, sur ce que Silfaero vous apporte et comment Dassault Systèmes se projette justement dans ce futur désirable, durable.
La collaboration vous apporte donc, dans un premier temps d'accompagner la mise en place de développement de technologies innovantes et d'aligner nos solutions en face de ces technologies. Donc, par exemple, sans aller trop dans le détail, on a dit qu'on mettait en place des solutions de modélisation 3D et de simulation. Donc le fait d'avoir un cas réel d'utilisation de ces solutions vont également permettre à nous d'améliorer et de continuer le développement de solutions en termes d'électromagnétisme par exemple, au niveau de la simulation. Et dans un deuxième temps, il y a un intérêt beaucoup plus global qui est que le fait d'accompagner ces startups, on aligne en fait l'objectif de la technologie proposée par la startup avec des ambitions de développement durable mondial pour lesquelles on va mettre en valeur en fait la technologie et ce qu'a apporté la plateforme en termes de sustainability. Donc à chaque fois, on va mettre en avant un objectif de développement durable et de sustainability particulier, un ou plusieurs, liés à cette collaboration sur lequel on va pouvoir expliquer en quoi est-ce que cette collaboration permet d'améliorer la société dans son long terme.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce podcast, c'était passionnant. Merci aussi à tous les auditrices et auditeurs de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Jeunes Pousses, le podcast dédié aux initiatives à impact. Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.